direct du studio 11, au 56 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, on défait le monde dans RTL Soir, saison 2, épisode 31. Voici Marie Mollet, Stéphane Carpentier, Brice Dugénie, Laurent Tessier, Greg Caranoni et Cyprien Sini.
Qui ça?
Wouh, Cyprien.
Wow, ambiance.
Ça va Cyprien?
Impeccable.
Laurent est là bien sûr en studio, bonsoir, bonsoir Laurent.
Bonsoir.
Marie nous accompagne aussi, Greg est aux commandes bonsoir comme d'habitude, tous. Ça va Greg? Super. On a Brice Dugénie qui est toujours à distance,
et oui.
Se soigne.
Exactement, ouais. Bonsoir, de retour dans ma penderie, tout va bien.
Ça va mieux Brice quand même, le coronavirus.
Ouais, ouais, ça va mieux. Ah. Ah. Je vous cache pas qu'il y a eu 2-3 jours, 3-4 jours bien rudes. Franchement, bien rudes, mais là ça va bien, je suis content de vous retrouver.
Ah, la petite bête va pas tuer la grosse quand même. Dans l'histoire.
Non, mais enfin, c'est ce que je pensais avant, ça. Je pensais ça avant et puis j'ai changé d'avis.
Vous commentez, vous réagissez, on défait le monde, c'est jusqu'à 20h. Vous avez le compte Twitter, bien sûr, la page Facebook de l'émission. C'est parti pour le sommaire.
Marine Le Pen, idole des jeunes. Hein. Selon deux études Ipsos et IFOP, le Rassemblement National serait le parti préféré des jeunes. Explication et analyse dans On défait le monde. Et si l'ARN messager changeait le monde? Solution contre le coronavirus, cette nouvelle technique médicale ouvre une voie prometteuse à un vaccin contre le VIH. Jusqu'où cette révolution va nous mener? On allumera la lumière sur le sujet. Comme tous les vendredis, vous découvrirez l'identité du loser, du grand perdant de la semaine. Et franchement Marie, cette semaine il y avait du choix et vous avez opté pour un incontournable.
Oui, Pierre-Jean Chalençon, sosie de Polnareff et roi du poisson d'avril.
Le billet retour quand on revient sur une info qui a fait la une et dont on ne parle plus, avec ce soir Brice, un certain Bachar el-Assad.
Oui, envers et contre presque tous. Il était, il est et il compte bien rester président syrien.
D'ici 20h, trois infos pour briller au dîner en hommage au prince Philippe. Dans Marche ou Rêve, on prendra des nouvelles d'une étudiante en médecine qui avait quitté la fac pour aider en réa, on l'avait eu au téléphone, et ben, on reviendra sur cette histoire, et évidemment, le cadeau, avec ce soir un petit week-end à deux, pour quand on pourra repartir en week-end, je vous raconte pas. On défait le monde, saison 2, épisode 31.
Allez hop, on y va, en route pour l'aventure. Aventure, nous voilà.
On défait le monde dans RTL Soir.
Vous êtes déçus là?
Ah bah ouais, il y avait rien. Oui.
Bah non.
Ah
ouais, c'est comme ça.
Pas tout le temps.
19h19, on y va.
Pas d'inspiration.
Il surfe tous les matins de la semaine à 6h40 et juste avant 8h. Cyprien, surf de la semaine.
Eh bien cette semaine, enfin, une bonne nouvelle. Oui, quelle fierté, quelle joie d'entendre notre Premier ministre annoncer hier.
Le pays tout entier vient de franchir les 10 millions de vaccinations, c'est-à-dire que nous sommes à une semaine d'avance à l'objectif que j'avais fixé.
Wouh ! Une semaine d'avance sur l'objectif, pop, 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 on se plaint, mais qu'est-ce qu'on est bon quand même. On est en avance, mais alors, l'objectif, oui, mais lequel ? Non, parce que moi, j'étais resté là-dessus quand même.
Mais ce qui est important que les Français sachent, c'est que nous sommes en mesure de vacciner 1,3 million, 1,4 million Français à la fin du mois de janvier. 4 millions de Français à la fin du mois de février. 9 millions à la fin du mois de mars. 20 millions à la fin avril.
20 millions fin avril. Et là, alors attends, on refait les comptes. Donc, ça veut dire qu'avec 10 millions mi-avril, on a une semaine d'avance sur l'objectif de 20 millions fin avril. Ouais, on va donc vacciner 10 millions de personnes en 15 jours. Ou alors on a changé les objectifs. Ah ouais, c'est ça. Ah c'est oui, en fait c'était plus pratique, on a changé l'objectif, j'avais oublié. Bon, on est content quand même. Bon, sinon saluons Jean-Luc Mélenchon qui en cette période de crise sait garder le sens de la mesure.
Ce chaos insupportable qu'il y a dans l'éducation nationale où monsieur Blanquer est certainement aussi dangereux que la Covid à force.
Ah, le sens de la mesure. Et tout, en tout cas, Jean-Luc, il a zappé les cours de latin quand il était jeune.
Je dis que ce qu'il fait est mauvais. Deux yeux parce qu'il est en train de désorganiser l'État. Et trois yeux parce que c'est une diversion.
Quoi? Deux yeux et combien il a dit après?
Et trois yeux parce que c'est une diversion.
Ah ouais, trois yeux. Bah, normalement, on dit plutôt primo, deux yeux, tertio. Mais bon, ou alors c'est un hommage à San Antonio qui faisait volontairement l'erreur, qui sait les méandres de la littérature. Bon, en tout cas, sur BFM Paris, là, on est sur un bon gros lapsus de compète, hein. Ça c'est sûr. Écoutons les titres de l'actualité hier à 11h45.
Score final 3-2 et l'effectif qui prend une option sur la qualification en demi-finale. Le pic est-il passé?
Ah oui, celui-là, il est très très beau. Épidémie de coronavirus.
Le pic est-il passé?
Le gars n'en peut plus, il est au bout du rouleau, il rêve inconsciemment d'aller se faire un pique-nique. Et franchement, on le comprend. Sinon, gros sujet de la semaine, hein, la saleté à Paris. Et là, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a sorti la carte secrète.
C'est pas ma faute.
La carte, c'est pas ma faute. Comme toujours sur le sujet, hein, puisqu'il y a deux ans, c'était pas sa faute, c'était la faute aux Parisiens mal élevés.
Il faut que chaque citoyen se prenne aussi en charge et prenne soin de sa ville. C'est un problème d'éducation et je pense qu'il faut tout reprendre à la base.
Mais oui, l'éducation des Parisiens à reprendre à la base. Et donc cette semaine, la carte... La carte, c'est pas ma faute, la saleté est inventive, puisqu'elle nous amène à...
Il y a mais on une campagne très orchestrée, plus que campagne de dénigrement,
c'est
beaucoup de proximité avec l'extrême droite.
Oui, c'est un complot ourdi par l'extrême droite si les poubelles débordent. Bon, en même temps, en ce moment, ça risquait pas d'être la faute aux touristes, hein, il y en a pas. Enfin, si vous êtes passé à côté, je ne pouvais pas ne pas vous parler du pigeon du siècle. Oui, souvenez-vous, novembre 2018.
Ce sont 19 petites minutes qui ont dynamité le marché mondial de l'art. Les sommes sont vertigineuses, 400 millions de dollars.
Le Salvator Mundi de Léonard de Vinci devient la toile la plus chère du monde.
Le gars dépense un demi-milliard, la toile la plus chère du monde, hein, Léonard de Vinci. Et donc aujourd'hui...
Ce tableau qui en fait n'aurait pas été peint par Léonard de Vinci.
Eh oui, le gars s'est peut-être fait refourguer une croûte anonyme pour 500 millions de dollars. Et rien que pour ça, moi je dis vivement la semaine prochaine quand même.
Le sort de la semaine, Cyprien Sini, très très vite. Évidemment, on vous met tout ça sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter et puis sur le podcast à l'issue de l'émission.
RTL Soir, on défait le monde.
La première info de la soirée est 19h23, merci d'être là. Elle concerne le Rassemblement National, qui serait donc le parti préféré des jeunes.
Oui, c'est le journal Le Monde qui a publié les chiffres des instituts IFOP et Ipsos qui nous ont interpellés. On y apprend donc que le RN est le premier parti chez les jeunes entre 24 et 35 ans. 29% en hausse par rapport à 2017. Et alors évidemment, comme en plus d'être membre d'On défait le monde, vous êtes aussi spécialiste du Rassemblement National au service politique de RTL. Ah ben ça, c'est un dossier pour vous, Marie. Alors d'abord, moi qui aime bien les vieux clichés, j'étais persuadé que les jeunes votaient plutôt à gauche et que plus on était âgés, plus on se tournait vers la droite. Bon, visiblement, je suis à la rue. Hein.
Alors oui, c'est ce qu'on appelle une idée reçue qui est fausse et qui est fausse depuis assez longtemps. Déjà en 2015, au régional, le RN, premier parti chez les moins de 30 ans. 2019, les européennes, le RN, deuxième parti chez les moins de 35 ans. Donc en fait, on est très loin du cliché du jeune sans le sou qui vote à gauche et qui se droitise au fur et à mesure qu'il vieillit et s'enrichit.
Ah, j'aime bien les clichés. Mais alors, c'est quoi le profil de ces jeunes qui votent RN ?
En fait, quand on regarde bien, il y a deux jeunesses vis-à-vis de Marine Le Pen. Il y a d'abord les 18-24 ans, les étudiants, si vous voulez, ce qu'on appelle les primo-votants, où il y a un vrai vote Rassemblement National, 20% à peu près, mais c'est pas beaucoup plus que la moyenne nationale. Et puis il y a les 25-35 ans, les jeunes actifs qui se heurtent au marché du travail, aux difficultés d'insertion. Et c'est là qu'est la percée de Marine Le Pen, c'est là qu'elle recrute près de 30%. Alors pourquoi cette différence ? Pourquoi ces deux jeunesses ? C'est ce que nous explique très bien Frédéric Dabi, directeur adjoint de l'Institut IFOP.
Les 18-24 ans sont souvent dans des processus d'études, sont souvent chez leurs parents, sont souvent protégés. Et en l'espèce, ils sont moins tentés sans doute par la radicalité du Rassemblement National. En revanche, cette génération des 25-30, 25-34, qui ne parvient pas à s'insérer professionnellement, qui est touchée de plein fouet par les effets économiques de la crise liée au coronavirus, qui a du mal à se projeter, qui craint le déclassement, on voit que c'est cette génération de jeunes qui sont particulièrement séduits par le vote Rassemblement National.
Donc des jeunes actifs, on l'entend. Et puis il y a d'autres critères. Le jeune qui vote RN, il est plutôt issu des classes populaires, plutôt peu diplômé, il n'a pas de surprise. Mais le RN arrive aussi à recruter des jeunes issus de milieux plus bourgeois, plus aisés, qui vont être séduits par les volets identitaires et anti-immigration du parti.
Alors est-ce que ça veut dire que chez ces jeunes, il n'y a plus de tabou à voter RN ? Parce que moi je me souviens quand j'étais jeune, on n'en voyait pas en fait. Hein.
Bah non, exactement. En fait, il n'y a plus de complexe, il n'y a plus d'interdit. Pourquoi ? Parce que les jeunes n'ont pas la mémoire du Front National version Jean-Marie Le Pen, hein, des sorties antisémites, de l'affaire du détail, des outrances sur l'inégalité des races. Il n'y a plus l'odeur de soufre, comme le dit Frédéric Dabi. Le RN, c'est plus le diable hein, pour ces jeunes. Et puis, il y a autre chose, c'est que le RN, de son côté, fait le job, si je puis dire, et met en avant des personnalités très jeunes. La révélation Jordan Bardella propulsée numéro 2 du parti, des maires, des élus, des cadres qui sont jeunes. Et puis le RN pousse aussi des propositions en direction des jeunes, hein, par exemple la création de fonds de solidarité jeunesse pendant la pandémie, pour n'en citer qu'une.
Mais alors, là je vous écoute depuis tout à l'heure, mais il y avait aussi quelque chose d'autre qui revenait souvent. Le premier parti de France, chez les jeunes, c'était l'abstention. C'est faux ça ?
Alors ça c'est vrai. Ça, c'est vrai, c'est le trait le plus saillant de cette génération, c'est le non-vote, avec une surabstention absolument massive. Au municipal, 70% d'abstention chez les jeunes, c'est 10 points de plus que le reste de la population. Alors, ce qui est assez amusant, c'est de voir en fait qu'à chaque élection, les candidats dépensent une énergie folle à s'adresser à la jeunesse, alors que ça ne paye pas beaucoup puisqu'ils votent peu. C'est une contradiction que nous explique Frédéric Dabi.
Le vote des jeunes est rarement un vote décisif. On n'a jamais vu les jeunes emporter une élection présidentielle. Mais il y a, je dirais, presque des croyances ou des vertus magiques du côté du personnel politique à parler, à s'adresser aux jeunes. Premièrement, parler aux jeunes, c'est parler également à leurs parents, à leurs grands-parents. C'est dès que les jeunes sont avant-gardistes sur toute une série de pratiques, de comportements. Et tout ça fait que, même si les jeunes ne sont pas une clientèle électorale solide, ça fait partie des exercices imposés de s'adresser aux jeunes.
Donc pour résumer, disons qu'il n'y a pas de ruée de la jeunesse vers le vote RN. D'abord, ils s'abstiennent et quand ils votent, les 25-35 ans choisissent en premier Marine Le Pen.
Décryptage complet, très clair dans On défait le monde avec vous, Marie Mollet. Il est 19h27.
À suivre dans On défait le monde.
La première info pour briller, grâce au prince Philippe. Une perspective folle de l'ARN messager et évidemment, le loser de la semaine.
On défait le monde dans RTL Soir.
À tout de suite.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
Et comme promis par Cyprien dans le sommaire de l'émission tout à l'heure, ce soir, trois infos pour briller au dîner consacrées à la disparition du prince Philippe aujourd'hui à 99 ans. Ça commence avec vous, Brice.
Oui, et partons au Vanuatu, archipel en plein océan Pacifique, plus précisément sur l'île de Tana, c'est pas très loin de la Nouvelle-Calédonie. Et bien là-bas, il y a une tribu très reculée qui avait fait du prince Philippe un dieu qu'il vénérait et dont le portrait était exposé dans leur temple. Pourquoi ? Parce que une légende locale prétendait que le fils à la peau claire du dieu de la montagne était parti à travers les mers à la recherche d'une femme riche et puissante pour l'épouser. Ça, c'était la légende dans laquelle il croyait. Et qu'un jour, il reviendrait riche et célèbre. Et donc, pour eux, l'incarnation de la légende, c'est-à-dire ce fils à la peau claire, fils du dieu de la montagne, parti épouser une femme puissante, eh ben, ça ne pouvait être personne d'autre que le prince Philippe, qui avait épousé rien de moins que la reine d'Angleterre. Alors, des liens avaient été établis avec le prince. Il avait reçu, d'ailleurs, une lance de chasse de la part de la tribu, et il avait renvoyé une photo dans les années 80 de lui, en costume, avec cette lance à la main. Il avait promis à cette tribu, sur l'île de Tana, de venir les voir, mais son agenda de prince ne lui a jamais permis de réaliser ce voyage auprès de ses fidèles.
Très bonne première info pour briller au dîner ce soir, signé Brice du Génie.
Allume la lumière.
À 19h31 dans Défait le Monde, on est ensemble jusqu'à 20h. Allume la lumière, c'est quand un expert nous éclaire, Cyprien, sur une actualité.
Et cette semaine, vous en avez certainement entendu parler grâce à la technique dite de l'ARN messager présente dans les vaccins Pfizer et Moderna. On est en train d'élaborer un vaccin contre le VIH et les essais de phase 1 paraissent concluants. Une technique de l'ARN messager qui ouvre donc de nouvelles possibilités.
Oui, et du coup, en fait, on a voulu comprendre comment ça fonctionnait vraiment, quel genre d'autres maladies cela pouvait soigner et si cette nouvelle méthode allait révolutionner la médecine.
Et pour répondre à ces trois questions, on a contacté le professeur Philippe Amouyel. C'est l'ancien directeur de l'Institut Pasteur, professeur au CHU de Lille. Et pour commencer, on reprend depuis le début, l'ARN messager, comment ça marche ?
Quand votre cellule détient l'information qui est contenue dans l'ADN, ça tout le monde connaît l'ADN, elle a juste l'information. À un moment donné, quand elle en aura besoin, la cellule va extraire un petit message qui va correspondre à une protéine bien spécifique qu'elle veut voir fabriquer. Donc c'est un outil qui est extrêmement utile parce que ça permet à nos cellules de grandir, à notre corps de grandir. Et ça a aussi un autre avantage, comme c'est un message, ça disparaît extrêmement vite. Donc ça n'a pas d'impact sur l'ADN lui-même. C'est un petit bout de matériel génétique qu'on connaît déjà depuis les années 80. Mais il a fallu en fabriquer, le synthétiser, le contrôler, voir comment ça marche. Ça fait des années qu'il y a des gens qui disent ce serait bien d'utiliser ça pour faire des vaccins. Et à côté de ça, il y a des gens qui disent oui, mais on a l'habitude de faire des vaccins déjà, on sait comment y faire, donc regardons les anciennes techniques. Et heureusement, il y a eu cette impulsion qui a été donnée par la pandémie à Covid-19 où là, il fallait aller très vite. Du coup, on s'est dit on va l'essayer avec des ARN messagers et ça a marché en un temps record. Du coup, ça a permis de mettre en œuvre énormément de moyens pour avancer dans cette direction. Des petits laboratoires comme BioNTech, puis comme Moderna et d'autres, on dit voilà, il faut aller dans cette direction. Mais ils n'avaient pas les moyens de les développer. Et donc d'un coup, on a gagné le temps de convaincre les gens et de pouvoir injecter de l'argent, parce que maintenant, tout le monde sait que ça marche et tout le monde veut faire de nouveaux produits avec ça.
Alors d'accord, des nouveaux produits avec de l'ARN messager, mais pour soigner quoi en fait ?
Eh bien, il y a ces essais sur le VIH, mais pas que, comme nous l'a expliqué le professeur Amouyel.
Il faut savoir qu'il y a des hypothèses aussi sur le cancer et qu'on va s'en servir probablement dans un tas d'autres maladies, donc une vraie nouvelle voie ouverte pour la médecine. Si on prend l'exemple du cancer, on va, par exemple, essayer de tuer directement la cellule cancéreuse en repérant une petite protéine qui est sur cette cellule cancéreuse. On fait l'ARN messager, on l'injecte dans les cellules de notre corps, qui lui va se mettre à faire la protéine. Notre système immunitaire va arriver, va la détruire, va apprendre à la détruire, et dès qu'il va voir une cellule cancéreuse, va venir la tuer. Donc en fait, ce sont des nouveaux mécanismes de traitement beaucoup plus ciblés et finalement qui reposent toujours sur comment utiliser notre propre système de défense pour lutter contre d'autres maladies.
Ouais, ça laisse rêver, on a l'impression qu'on va pouvoir presque tout soigner quand on entend ça.
Alors Laurent, on ne s'emballe pas.
Ah, bon.
C'est génial, c'est vrai, mais il faut temporiser.
Pas le sentiment qu'il s'emballait à mort non plus. Hein,
quand même, soigner toutes les maladies.
C'est vrai qu'il s'emballait.
Non, il ne faut pas aller trop vite quand même. Écoutez le professeur.
Alors, révolutionner la médecine, non, mais apporter de nouveaux outils qui permettent de répondre à des questions extrêmement importantes de la médecine, oui. On va s'en servir probablement dans un tas d'autres maladies, donc une vraie nouvelle voie ouverte pour la médecine. On va avoir un nouveau champ de la médecine qui va se développer. Le champ des possibles, après, il va être limité par l'imagination, par les fonds qu'on peut injecter, et puis après par la réalité des choses. Parce qu'il y a des fois, ça marche. Ça a été un cas exceptionnel avec le Covid-19. Peut-être que dans d'autres cas, ce sera plus long et ça ne marchera pas toujours aussi bien. Donc maintenant, le balancier va aller dans les deux sens. Mais ce qui est important, c'est qu'on a engagé une nouvelle voie de recherche et de développement pleine de promesses.
Passionnant, le professeur Philippe Amouyel, donc professeur au CHU de Lille, pour ce décryptage. C'est Allume la lumière à 19h35.
À suivre dans On défait le monde.
Votre deuxième info pour briller au dîner, le loser de la semaine et le jeu.
On défait le monde dans RTL Soir.
À tout de suite.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
Les trois infos pour briller au dîner de ce soir, je le rappelle à Brice Dugénie, qui sont consacrées à les disparitions du prince Philippe. Aujourd'hui à 99.
C'est moche.
Oui, je sais, mais ça fait plaisir. La deuxième, d'accord, ce soir, c'est avec Laurent.
Oui, et sachez-le, pendant les premières années de sa vie, le prince Philippe n'avait pas de nom de famille. Il est le fils du prince André de Grèce. Alors, sa famille a dû fuir le pays peu après sa naissance, lorsqu'il a 18 mois. Il est même caché dans une caisse d'orange sur un navire de l'armée britannique. Philippe se fait alors appeler Philippe de Grèce, tout simplement durant toute son enfance et même plus. Mais tout s'accélère. En 1947, lors de son union avec Elisabeth II, il devient citoyen britannique peu avant son mariage et choisit son propre patronyme. Il adopte le nom de Mountbatten, celui de son oncle maternel et mentor, Lord Louis Mountbatten. Et pour la petite histoire, le prince Philippe a même dû batailler ferme pour que ses enfants portent son patronyme, accolé évidemment à celui des Windsor.
Deuxième info pour briller au dîner ce soir, signé Laurent Tessier. Vous réagissez bien sûr le compte Twitter, la page Facebook de l'émission. Il est 19h38.
RTL.
Le loser de la semaine.
Ah, on a hésité cette semaine. Il faut dire qu'entre Jean-Michel Blanquer et ses cours à la maison qui marchent pas, et le roi du poisson d'avril, Pierre-Jean Chalençon, on avait un gros match. Hein, ça s'est joué à quelques centièmes près. Bon, finalement, Marie, après plusieurs nuits sans dormir, vous avez opté pour le sosie de Polnareff.
Et oui, Pierre-Jean Chalençon, le mondain, le grand collectionneur du Premier Empire, amoureux fou de Napoléon, et accusé d'avoir organisé des dîners huppés et clandestins en plein confinement chez lui. Contacté par M6, il aggravait son cas en quelques secondes.
Nous avons contacté l'organisateur de ce dîner illégal, se défend et dénonce une pratique généralisée.
J'ai dîné cette semaine dans deux ou trois restaurants avec un certain nombre de ministres. Alors ça me fait doucement rigoler.
Et cette petite phrase de rien du tout a aussitôt embrasé les plateaux télé.
Des dîners clandestins en présence de ministres.
Un membre du gouvernement.
Dîners clandestins.
Qu'un ministre participe à ces
dîners. Un membre du gouvernement dans ces dîners.
Oups, la grosse bêtise, ça commençait à sentir le roussi pour Pierre-Jean Chalençon. Alors pour se sortir du bourbier, il a minutieusement construit sa défense. Un argumentaire béton. Alors avis aux élèves avocats, prenez des notes de cette leçon magistrale donnée sur BFM TV. 1. Règle de base, ne jamais changer sa version des faits.
Du tac au tac, non, je ne reçois pas de ministre, je n'organise absolument pas de fiesta. C'est le plus gros poisson d'avril de l'histoire de ces 10 ou 15, 20 dernières années.
Ah, c'est vrai que dit comme ça, c'est amusant. Deuxième règle, trouver un argument d'autorité juridiquement solide.
En plus, je n'ai pas de cuisine, puisque depuis le mois de décembre, je suis sans cuisine. Alors, comme je n'ai pas de cuisine, je commande soit des sushis, soit je me fais livrer des burgers.
Trois, ne jamais se contredire dans la même phrase.
Et quand j'invite, c'est moi qui fais la cuisine. J'adore faire des pâtes, j'adore faire des gâteaux de foie, j'adore faire... je suis un bon cuisinier.
C'est un naufrage.
Quatre, Quatre, raconter une histoire crédible. Par exemple, au hasard, nous n'avons pas dîné, mais c'était une répétition pour s'entraîner à dîner.
Nous avons fait une mise en situation à l'identique. Voilà. C'est-à-dire que nous avons organisé comme s'il y avait une soirée, mais il n'y avait absolument rien à manger. Enfin, en tout cas...
Mais, la présence d'un chef, il est là pour quoi, le chef, si c'est pas pour faire à manger?
C'est très important.
C'est bon, vous avez tout suivi?
Oui, monsieur, parfaitement, c'est très clair, je vous suis parfaitement...
5. Faire diversion en parlant d'un autre sujet, en l'amenant avec finesse, avec habileté.
Vous savez, moi je suis quelqu'un de gentil, je suis de généreux. Vous savez, moi j'ai plusieurs SDF en bas de la maison. Je suis toujours là à leur donner à manger, leur donner de l'argent. On est tous dans la même galère.
Ah, c'est vrai qu'on est, on est tous dans la même galère. Surtout Pierre-Jean Chalençon, en 2017, on le voyait à l'agonie sur France 2.
Vous voyez cette bague là, oui, c'est l'anneau du sacre.
Oh voilà. Vous portez la bague de Napoléon qu'il avait pour son sacre.
Mais oui. Et on entend dans ce court extrait là, la détresse de cet homme. 6. Enfin, règle cardinale, restez humble.
Enfin, la France entière me connaît. Je suis le gardien du tombeau de Napoléon. Je suis le gardien de la mémoire. On a cherché à me salir parce que je suis connu et que j'ai une forte gueule.
Et en même temps, il est surnommé l'empereur dans le milieu des collectionneurs où il est connu et reconnu. Ça montrait à la tête de n'importe qui jusqu'à peut-être embrumer un peu son esprit.
Ouais, c'était difficile de le rater celui-là quand même, hein, Marie. Franchement.
Incontournable.
Allez, c'est l'heure du jeu, les amis. Soyez bien à l'écoute. Il est 19h40.
C'est maintenant qu'on vous régale, car...
C'est l'heure de Monsieur Cadeau.
Monsieur Cadeau, Grégory Caradoni en stéréo. Qu'est-ce qu'on offre à nos auditeurs ce soir?
Les partouches, vous connaissez?
Oui.
Les hôtels et casinos.
Oui. Ah, il y en a partout.
Ce soir, il y en a partout, exactement.
Non.
Eh bien, ce soir, on vous offre deux nuits dans l'un des hôtels et casinos de votre choix.
Oh.
En plus de ça, on vous offre un repas au restaurant du casino, deux soirées avec les animations sur place et 30 euros de crédit pour le jeu, pour jouer sans abuser.
Énorme.
Bien sûr, pour profiter de l'ambiance. Parce qu'il y a toujours de l'ambiance dans les casinos partouches, bien sûr. Il y en a plein,
moment,
des casinos partouches en France. Plaît-il, Brice?
Il n'y a pas tellement d'ambiance en ce moment, mais ça va revenir. J'ai l'impression que tous ceux qui ont gagné, là, ils sont sur la ligne de départ, ils vont tous débouler chez Partouche quand on va...
Je fais confiance à nos auditeurs pour mettre un peu d'ambiance dans les casinos partouches. Aix-en-Provence, hier, Divonne-les-Bains, Le Havre. Vous pourrez choisir parmi tous ces casinos.
Eh ben c'est formidable. Merci Greg. Alors, vous évidemment y aller quand on pourra y retourner. Ouais. Voilà. Le cadeau n'est pas périssable tout de suite, quoi. La fameuse question dont défait le monde. Alors attention, elle est technique celle-là. On vous parlait tout à l'heure de l'ARN messager. Lequel de ces vaccins contient de l'ARN messager? Est-ce que c'est A, le Moderna? Est-ce que c'est B, le Sanofi? Ah, mais ils en ont pas. Est-ce que c'est C, le Pasteur? Ah, bah ils n'ont pas réussi non plus. Alors, est-ce que c'est le Moderna, le Sanofi ou le Pasteur? Lequel de ces trois vaccins contient de l'ARN messager? Vous avez la bonne réponse, 3210, on tirera au sort, on essaiera de passer un coup de fil.
Ah, je l'aime bien la question du soir, c'est 3210, 3, 2, 1, 0. Bonne chance à vous tous, le standard est ouvert.
RTL Soir, on défait le monde.
Le billet retour à 19h43 en ce vendredi quand on revient sur une info qui a fait la une et qui, depuis, a disparu.
Et ce soir, on repart en Syrie. Oui, souvenez-vous, la Syrie déchirée par une guerre depuis 10 ans. Et alors depuis 10 ans, un homme est dans le viseur d'une grande partie de la communauté internationale. Écoutez François Hollande à l'époque, président en 2012.
Il n'y aura de sortie possible de cette situation qu'avec le départ de Bachar el-Assad.
Puis ce même François Hollande, il y a 6 ans.
La solution ne peut pas passer par le maintien de Bachar el-Assad à la tête de la Syrie. Il faut trouver une solution et elle ne passe pas par Bachar el-Assad.
Sauf que Brice, aujourd'hui, Bachar el-Assad est toujours là. Alors comment c'est possible?
En fait, parce que au gré d'une politique, sa politique, cyniquement pragmatique, des alliances de circonstances, parfois contre nature, les bombardements, la répression, les victoires militaires, Bachar al-Assad, il a fini par reprendre le contrôle de la majeure partie de son territoire grâce au soutien indéfectible de ses alliés russes et iraniens qui ne l'ont jamais lâché. Alors Bachar al-Assad, il est toujours président de la Syrie. Il a même remporté les élections législatives l'année dernière, en juillet 2020. Son parti, le Front National Progressiste, a obtenu 177 des 250
150 sièges de l'Assemblée. On entretient encore une sorte de mythe de l'opposition. Il ne peut pas rafler tous les sièges. Et puis, il va à nouveau briguer un quatrième mandat, quatrième septennat lors de la présidentielle qui doit se tenir dans le courant du mois de mai. Et il devrait l'emporter dans ce contexte qui n'a plus rien de démocratique. Il y a 7 ans, il avait déjà gagné la précédente élection présidentielle avec près de 89% des suffrages. Et puis, il va même encore plus loin, Bachar al-Assad, puisqu'il prépare son fils, aujourd'hui âgé de 19 ans, à prendre sa succession. Donc, il est toujours là et il pense même déjà à la suite.
Mais il est président de quoi exactement ? Il a réussi à fédérer tout le pays ?
Non, en fait, on ne peut pas rentrer dans le détail tellement c'est complexe, mais le pays, la Syrie aujourd'hui, est totalement éclaté, morcelé. Alors, il y a des zones qui sont contrôlées par les Russes, d'autres par les Syriens, d'autres par les Syriens et les Russes, d'autres par les Iraniens, les Turcs, les Américains, les Kurdes. Bref, Damas, avec la Russie et l'Iran, tient la majorité du territoire. Mais en fait, Bachar al-Assad, il ne tire plus les ficelles. C'est un pays qui est en plein chaos et le chaos commence à durer.
Mais Brice, il n'y a pas d'autres solutions politiques possibles sans lui ?
Alors, aujourd'hui, avec le nombre de pays présents dont je vous parlais, les intérêts divergents, personne n'est capable de trouver une solution politique, pas même les Russes, en fait, qui cherchent depuis des années et qui sont les plus investis dans ce conflit. Mais aucun sommet international n'a permis de dégager une solution, de trouver un accord. Donc, faute de mieux, eh bien, rien ne change. Et Bachar al-Assad, en fait, il sait que son avenir tient uniquement à cela, au statu quo. Pourquoi ? Parce que il sait que s'il perd le pouvoir, il perd tout. Et peut-être même la vie. Quand on regarde ce que sont devenus, vous savez, les anciens dictateurs renversés par le printemps arabe, il n'y a pas beaucoup d'options. C'est la fuite, la prison ou la mort. Et ça, Bachar al-Assad, il le sait parfaitement. Donc, il s'accroche de manière totalement cynique à son siège, lui et tout son clan, quitte à détruire son pays, quitte évidemment à enfreindre les droits fondamentaux et les droits humains. Et c'est donc ce qu'il a décidé de faire.
Et au niveau de la guerre, on en est où ? Elle est finie, cette guerre ?
Alors, au sens où on l'entendait, c'est-à-dire le pouvoir central qui combat les rebelles, les dissidents, appelez-les comme vous voulez, avec des lignes de front, des villes à conquérir, à libérer, etc., ça ne ressemble plus à ça aujourd'hui. Il existe toujours des combats, mais les acteurs sont différents. C'est-à-dire c'est plus Bachar al-Assad contre les rebelles, c'est plus des intérêts régionaux, soit de puissances étrangères, soit de groupes islamistes qui sont encore présents, ou alors de milices. Je pense par exemple aux affrontements entre les Turcs et les Kurdes dans le nord du pays. Les Turcs ont profité de ce chaos pour tenter de récupérer une bande de terre dans le nord du pays. En fait, après 10 ans de conflit, il n'y a plus qu'un seul bastion rebelle et djihadiste, c'est la ville d'Idlib. C'est là que les djihadistes se sont repliés au fur et à mesure des défaites. Bachar al-Assad aimerait reprendre ça sous les bombes, comme il l'a fait à Homs et à Alep, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas.
Alors les réfugiés, Brice, est-ce qu'ils envisagent un retour dans les zones où les combats ont cessé ?
Alors, les réfugiés, il y a 6 millions de Syriens qui ont quitté le pays pour une population de 20 millions d'habitants. C'est plus d'un quart de la population. C'est comme disait 20 millions, 15 millions de Français qui partent d'un coup. Alors, d'une part, ce sont souvent des opposants. Donc, revenir dans une zone aux mains de Bachar al-Assad, c'est un peu compliqué pour leur sécurité. Et puis, Bachar al-Assad, en fait, même si publiquement, il dit qu'il est favorable au retour des réfugiés, que la Syrie est leur pays et qu'ils peuvent revenir quand ils veulent, en fait, dans le fond, il ne veut absolument pas que ces gens viennent potentiellement contester son pouvoir et le déstabiliser. Et puis, il y a une autre composante qui est la situation économique. Les Syriens ne peuvent pas rentrer car la situation est catastrophique. Plus de 80% de la population est désormais sous le seuil de pauvreté, alors que la Syrie était une économie florissante avant la guerre. Je vous donne juste un dernier chiffre. Avant le conflit, pour un dollar américain, il y avait un dollar américain valait 47 livres syriennes. Aujourd'hui, il en faut 4000. C'est-à-dire que la monnaie a perdu 100 fois sa valeur. Et c'est peut-être de là, en fait, que pourrait venir le danger pour Bachar al-Assad, de cette colère économique. Parce que même parmi ses partisans et même parmi ses soutiens, il commence à y avoir des critiques sur sa gestion du pays. Et c'est peut-être de ça dont il devrait se méfier. Parce que même s'il a réussi à réprimer cette colère jusque-là, ça durera peut-être qu'un temps.
Bien, retour, décryptage complet sur la situation en Syrie avec Bachar al-Assad. C'est signé Brice Dugénie, grand reporter du service étranger de RTL. 19h48, la troisième info pour briller au dîner. C'est dans une poignée de secondes. À tout de suite.
RTL Soir, on défait le monde. On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
La troisième de ce soir consacrée à la disparition du prince
Philippe. Aussi, donc, si je suis,
ça se confirme. Après vous, Brice, après Laurent tout à l'heure. Et mauvais esprit. C'est Cyprien qui s'y colle.
Je demande une précision, ça me paraissait pas clair. Bien, tout à l'heure.
Donc c'est sur le prince Philippe. Merci. Vous le savez. En public, les rapports entre la reine d'Angleterre et le prince Philippe étaient très protocolaires. Monsieur marchait toujours derrière madame à deux pas. Tout cela était très codifié. Pas de place pour l'impro et le fun. Mais dans l'intimité, en revanche, Philippe donnait un petit surnom à la Queen. Oui, pas de votre majesté entre les deux, non. Philippe appelait la reine mon chou ou mon petit chou. Elle vous l'a dit tout à l'heure, Bénédicte Tassard, ouais, dans son portrait à 19h15. Mais c'est pas tout. C'est Stephen Frears, le réalisateur de The Queen, la série à succès, qui a balancé cette info. qui tient du premier cercle royal, dit-il. En tout cas, qu'il le dise en français, c'est possible, puisque Philippe, je vous rappelle, a vécu 7 ans en France pendant son enfance. Et là, il y avait un autre surnom, moins connu et pas confirmé par le premier cercle, donc voilà, c'est My Sausage. Ma non. petite saucisse.
Ah non.
C'est oui,
non.
Je vous jure que c'est vrai.
Possible. C'est une info sini, ah ouais. ça, de votre cercle à vous. Quoi.
Non.
C'est vrai que ça sent l'info un peu faisant.
Laurent Tessier peut confirmer.
Ah, il se couvre là.
Ouais, c'est vrai. Nous l'avons lu ensemble et découvert ensemble.
Voilà. 19h52.
Comme quoi, même tête couronnée, on est glamour.
Mais c'est un travail d'équipe.
Marche ou
rêve.
Brice, il y avait un jingle.
Oui, merci. On peut le remettre du coup.
Oui, bon, c'est le même que la semaine dernière, non ?
Marche ou rêve.
Donc, c'est quand on met en valeur. Alors, vos idées, vos initiatives.
Et bien entendu, dans ces projets, dans ces initiatives, on vous suit, on prend des nouvelles. Et donc ce soir, Laurent, on a décidé de voir où en était une jeune étudiante en médecine qui s'était portée volontaire pour aller donner un coup de main en réa pendant la deuxième vague.
Ouais, le 30 octobre, nous avions fait la connaissance de Mariam, 21 ans, étudiante en 4e année de médecine à l'université de Caen. Après un stage dans un service de réanimation en septembre et octobre, elle était venue aider le personnel soignant et elle est avec nous en ligne ce soir. Bonsoir Mariam.
Bonsoir.
Alors, 5 mois après, où en êtes-vous ?
Eh bien, les choses n'ont pas beaucoup changé pour moi, je pense, comme pour la plupart des Français. Je réponds toujours présente à la mobilisation à laquelle les étudiants en médecine sont confrontés. On se porte volontaire, comme au début de cette crise, pour aller prêter main forte dans les services de réanimation, pour réaliser les tests PCR et maintenant aussi pour réaliser la vaccination. Donc voilà, les choses n'ont pas beaucoup changé pour moi.
C'est-à-dire que donc depuis le 30 octobre, quand vous avez eu la dernière fois, vous avez continué à bosser à l'hôpital tous les jours, quoi. Enfin...
Oui, enfin pas tous les jours, mais j'y vais de temps en temps pour essayer aussi de décharger un peu mes collègues externes, enfin étudiants en médecine ou autres à l'hôpital.
Et par rapport à vos cours, comment ça se passe ? Parce que bon, on imagine qu'en 4e année de médecine, il y a quand même
c'est
du
chargé.
Boulot. Voilà,
ouais,
c'est chargé.
Ouais.
En plus de ça, vous faites l'hôpital, on vous allège le programme, comment ça se passe ?
Pas du tout. C'est vrai qu'on reste étudiant avant tout et que même si on fait partie de cette mobilisation, le programme ne change pas, les partiels ne changent pas. On reste étudiant, donc tout reste en distanciel malheureusement. Donc c'est vrai que c'est pas la meilleure manière d'apprendre à soigner les gens, mais on fait comme on peut au vu de la situation sanitaire. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué et lourd, d'autant plus que ça fait un an qu'on est dans cette situation. La fatigue aussi bien physique que morale commence très sérieusement à se faire ressentir auprès des étudiants et je commence aussi à en être victime.
Et je précise à nos auditeurs qui nous regardent sur RTL.fr, c'est votre photo qu'on a mis dans les écrans. Non, parce que sinon.
Oui.
Mariam, on a beaucoup parlé sur RTL du contexte difficile pour bon nombre d'étudiants. Comment vous vivez cette nouvelle année ?
C'est vrai qu'on commence un peu à avoir un ras-le-bol. Moi, personnellement. Je commence également à en avoir marre. En fait, le seul moment où je souffle, c'est quand je suis à l'hôpital parce que je vois des gens. Mais c'est vrai qu'on est dans un contexte de précarité qui est quand même assez important. Et le fait d'être isolé, ça rajoute un impact non négligeable dans notre vie étudiante. J'avais 20 ans en 2020, j'ai 21 ans en 2021 et c'est toujours aussi difficile malheureusement.
Est-ce que vous avez le sentiment d'apprendre plus vite, peut-être que les étudiants précédents, le fait d'être confrontés à cette pandémie historique et aussi de vivre, si vous prenez un peu de recul parfois, une situation sanitaire historique ?
J'ai l'impression d'apprendre beaucoup dans le sens où je pense qu'on sous-estimait tous l'impact des problématiques de santé publique. C'est vrai que nous, en médecine, on y est très sensibilisés, mais la population générale, pas forcément. D'un point de vue théorique, on en apprend beaucoup sur le coronavirus, c'est vrai, mais ça ne change pas forcément les connaissances théoriques que l'on doit avoir sur le reste des pathologies que l'on va avoir à traiter. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir... l'impact que la santé peut avoir et à quel point c'est important qu'on soit formé et prêt pour cette pandémie, mais probablement pour les prochaines à venir aussi.
Ça vous a pas coupé l'envie de devenir médecin ?
Non, ça l'a amplifié pour moi, parce que je me dis qu'on a besoin de nous, donc ça rajoute un sentiment d'utilité qui est non négligeable.
Merci Mariam, bravo pour tout ce que vous faites et nous prendrons de vos nouvelles avant la fin de la saison.
Merci d'avoir été là.
Merci à vous.
Bon courage à vous dans Défait le Monde. On est encore ensemble pendant quoi ? Allez, 1h30. On a un gagnant, une gagnante.
Et on a un gagnant. Dominique de Brest, bonsoir.
Bonsoir à toute
l'équipe. Bonsoir. Bonsoir Dominique. Alors, avant de valider votre week-end chez Partouche, il faut répondre à la question. On parlait de l'ARN messager tout à l'heure. Lequel de ces vaccins ne contient de l'ARN messager? Est-ce que c'est A, le Moderna, B, le Sanofi qui n'existe pas, ou C, le Pasteur, où on cherche encore?
Oui, bah écoutez, c'est vraiment compliqué, mais allez, à tout hasard, on va dire le Moderna.
Bravo! Dominique, vous gagnez un week-end au casino Partouche. Il y en a Partouche. Vous savez où vous allez aller?
Oh non!
Il a refait.
Oh non! Mais pas... oui, il a honte de rien. Oh là
là. On s'excuse pour ça, Dominique. Hein.
Et puis pour le reste.
Non, mais y a pas...
Vous êtes à Brest, alors je sais pas s'il y en a à Brest, je crois pas, mais c'est l'occasion de changer
alors,
un peu de région.
Je suis sûr qu'il y en a un qui est pas très loin de Brest. Si vous voulez commencer à voir où vous allez pouvoir aller, Dominique, www.partouche.com pour vous mettre l'eau à la bouche.
J'irai voir, avec grand plaisir.
À bientôt Dominique, gardez le sourire, ça fait du bien à entendre. Bravo à vous et merci de votre fidélité. Vendredi prochain, l'équipe revient au complet.
Les valides, oui, tout le monde.
Ouais.
Hein.
Brice sera là. Brice sera là.
Oui, oui, je pense que je vais revenir. Ouais. Si c'est validé par la médecine du travail, je serai là.
C'est bien. On vous quitte en.
Et validé par l'équipe, non?
Ouais, non.
Ah oui,
non,
ça pourrait
non, non, non. Je n'attends plus votre validation depuis bien longtemps, les gars.
Allez, on se quitte avec ça, tiens.
On peut dire que c'est Alizé, moi Lolita. C'est pas ma faute à moi. Vous savez que ça a eu un succès international, ça.
Oui,
je me suis retrouvé plusieurs fois en boîte de nuit en Espagne. Il y avait ça à fond.
Le mec a voyagé. Le mec a voyagé.
Non, mais c'est très étonnant. Vous êtes en Espagne et d'un coup,
il a bourlingué le type. Quoi.
Allez, point final.
C'était où à Malaga?
Le podcast arrive très très vite, évidemment, sur l'appli RTL. Bonne soirée.
À la semaine prochaine.
L'actu dans un instant et le foot dans la foulée.
Salut.
RTL Soir, on défait le monde.